Bonsoir tout le monde, bonjour. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Ah, bien reposé. Ouais. Bien reposé. Très bien reposé. Est-ce que c'est vraiment un bonjour? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question, effectivement. Pour moi, oui. Fait ce qu'on peut, hein. On fait aller. Façon, on va pas s'arrêter. Heureusement, j'ai deux écrans, le match d'un côté et Jean de l'autre. Ah, c'est le match, le football! Du football! C'est qui? C'est France-Belgique, c'est ça? J'ai pas suivi. C'est en finale? C'est quoi? Tu imites tous les accents? Assez bien. C'est les huitièmes de finale? Oh. On commence à regarder au quart. Pas avant. Non mais, moi je vous ai dit, hein, moi le foot j'en ai rien à foutre. Jusqu'au quart de finale. Et là j'ai un intérêt très aigu pour le foot. Et j'ai un avis très tranché sur l'arbitrage. Et sur les choix du sélectionneur. Alors que j'y connais rien du tout. La guerre des voisins. Ouais c'est vrai, en plus les Belges c'est des copains. J'ai une partie de ma famille en Belgique. C'est des bros les Belges. On est copains. Comme tout le monde. Ah oui, comme tout le monde. Comme tous les Français. Exactement. Un vrai supporter, ouais. Une famille d'évadés fiscaux. Tu verrais la gueule des évadés. Il devient fou à partir des quarts, oui, c'est ça. Est-ce qu'on connaît le débatteur ou la débattrice en face de Bardella ce soir? Non, je sais pas, j'ai rien compris. Moi, j'avais compris que c'était sur TF1 et que c'était Glucksmann qui allait. Mais apparemment, c'est pas ça. Parce que Bardella, il est pas d'accord, parce que Bardella, il veut que ce soit Mélenchon. Et Marine Tondelier, j'avais compris que c'était pour une autre émission. Genre France 2, le lendemain, un truc comme ça. Je comprends rien. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur, ce que moi je dis, moi j'ai rien compris. C'est pas un débat ce soir? C'est peut-être même pas un débat en plus. C'est juste un grand oral. Pourquoi c'est Bardella qui choisit? Non, non, c'est pas Bardella qui choisit. C'est Bardella qui essaye de poser des conditions, mais charge à la chaîne de résister. Oh, c'est pas la première fois, hein. D'ailleurs, c'est pas Bardella, c'est pas le seul à avoir tenté d'influer sur la chaîne en disant je veux pas débattre avec machin, je veux débattre avec truc. On en a vu d'autres. C'est pas du foot ce soir, je comprends rien. Non, c'est les élections législatives. C'est un match qui dure une semaine. Puis y a des arrêts de jeu, hein. Move inattendu de Mélenchon de refuser. Non, c'est pas inattendu. Jean-Luc Mélenchon avait déjà annoncé avant le premier tour qu'il ne souhaitait pas participer à des débats et qu'il renvoyait, il avait fait un tweet en disant aux journalistes, je vous laisse choisir parmi les gens qui composent les partis du Front Républicain. C'est pour ça qu'on s'était retrouvé avec Manuel Bompard et Olivier Faure, qui sont deux chefs de parti du Front Républicain. Et donc ce serait effectivement logique d'avoir Marine Tondelier, qui elle aussi est une chef de parti du Front Républicain. Après, ce serait compliqué d'avoir Fabien Roussel. Vous m'accorderez que Fabien Roussel, qui vient de perdre une élection, pas ouf. Tondelier a aussi perdu. C'est vrai, Tondelier a aussi perdu. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, c'est vrai. Il faut envoyer Hollande. Moi, ça me ferait marrer, hein. Avant le second tour des législatives, il y a un débat sur BFM TV qui est prévu et c'est Marine Tondelier qui devait être en face de Jordan Bardella et de Gabriel Attal à Sur Lundi, sur France Info, Clémentine Autain. Or, ils refusent. C'est-à-dire qu'ils veulent choisir avec qui ils débattent, déplore la députée de LFI. D'accord, donc Bardella et Attal refusent Tondelier. Eh ben putain. Classe, les mecs, classe. Tondelier a pas perdu, elle était suppléante dans une circo perdue d'avance. D'accord. Pourquoi ce serait eux qui décideraient? Bah, c'est pas à eux de décider. Mais ils peuvent menacer de ne pas venir à un débat s'ils veulent pas débattre. Tu peux pas forcer les gens à débattre, c'est ça le problème. C'est que d'un côté, tu peux pas les laisser décider, et en même temps, tu peux pas les obliger à venir. Et en même temps, si tu peux les obliger à venir, parce que tu peux les menacer de faire l'interview sans eux, de faire le débat sans eux. Mais un débat sans Bardella, BFM, ils ont pas envie. Donc c'est un rapport de force classique de tous les médias. Moi aussi, ça m'arrive sur Backseat, qu'on me casse les couilles en me disant « Non, je veux pas venir s'il y a machin, je préférais que ce soit truc et tout. » Allez vous faire cuire le cul, c'est pas vous qui décidez. Et si vous voulez pas venir, vous venez pas. Pas grave, on fait sans vous. Ça a toujours été ma position, mais je suis pas BFM. Tu leur dis comme ça, texto ? C'est pas moi qui m'en occupe, mais si c'était moi qui m'en occupais, je le dirais comme ça, texto. Pourquoi est-ce qu'on parle de Marine Tondelier maintenant, alors qu'avant c'était Marie Toussaint ? Marie Toussaint était la tête de liste des écologistes aux européennes. Marine Tondelier, c'est la secrétaire générale des écologistes, le parti. C'est pour ça qu'on parle d'elle. De la même manière que Manon Aubry, c'était la tête de liste de la France Insoumise aux européennes, et que Manuel Bompard est le chef du parti La France Insoumise. Les partis proposent une tête de liste. Ça peut arriver que ce soit le chef du parti la tête de liste, hein, mais c'était pas le cas cette année. Pourquoi Bardella veut être Premier ministre alors qu'il est déjà député européen ? Bah, tu peux tout à fait être député, tu peux tout à fait être Premier ministre en étant député européen. Enfin, évidemment, tu sièges pas à Strasbourg. Tu démissionnes de ton mandat de député européen. Mais il n'y a pas de préalable pour être Premier ministre. Pour être Premier ministre sans être député. C'est possible. Pourquoi pas Ruffin ? Je pense que là, c'est la France Insoumise qui ne va pas vouloir envoyer Ruffin. Est-ce qu'ils refusent Tondelier parce qu'ils veulent Mélenchon pour appuyer le narratif Mélenchon Premier ministre ? Oui, exactement. C'est précisément la raison pour laquelle ils font ça. Ils ont besoin de faire monter Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est leur épouvantail. Comme on sait que le second tour se jouera sur l'électorat centriste, si tu mets Jean-Luc Mélenchon, les électeurs centristes, ils vont flipper. Par contre, si tu mets la jeune et talentueuse Marine Tondelier, il y a peut-être des électeurs centristes qui vont se dire « Ouais, ça vaut le coup de voter Front Populaire ». Donc évidemment, Bardella et Attal, leur intérêt, surtout Bardella, c'est que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui débatte. Peux-tu répéter pourquoi Tondelier et non Toussaint ? Tondelier, c'est la chef du parti. Toussaint, c'était la tête de liste aux européennes. Sauf si Mélenchon fait du doux et du calme. Y a aussi un truc qui va pas jouer en faveur de Mélenchon, c'est son âge. Hein. Il va se retrouver en plateau avec deux trentenaires. Pour les électeurs... Pourquoi la FI pourrait pas envoyer Ruffin? Parce que Ruffin est un challenger potentiel pour Jean-Luc Mélenchon en 2027. Donc voilà, Tondelier, ce serait chouette. Ah, moi, je trouve que ce serait chouette, Tondelier. Mais évidemment, je suis biaisé. Du point de vue de Bardella, ce serait pas chouette. Et que Ruffin, en débat, il est nul aussi. C'est vrai que Ruffin, face à Attal et Bardella, d'un point de vue maîtrise technique des dossiers. En même temps, c'est des débats où ils vont se cracher sur la gueule en permanence, donc j'ai envie de te dire, la maîtrise des dossiers. Quand est-ce que Mélenchon prépare sérieusement sa succession? Eh bah, ils en décideront au congrès de la France Insoumise, avec le vote des militants. Tu accepterais si on te proposait d'être Premier ministre? La question se pose pas un quart de seconde. Le monde est meilleur que Bardella. Du point de vue des électeurs, c'est plus compliqué que ça, hein. Jordan Bardella plaît énormément. La preuve. On a tous vécu la même soirée électorale hier soir. Bardella, il est jeune, il s'exprime bien, il y a des électeurs pour qui ça suffit. Gabriel Attal, il est meilleur techniquement parce que c'est un politicard qui est dans l'exécutif depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, il connaît très bien les dossiers, il connaît les chiffres, il connaît les machins et tout. Mais d'un point de vue séduction de l'électorat, Bardella s'en sort bien. Les gens votent au physique. Énormément. Je sais pas si vous le saviez. Beaucoup d'électeurs votent au physique en fonction du personnel politique. Tu peux pas te présenter du coup, BG? T'es con. Petite question, est-ce que tu trouves la réaction d'ensemble et du NFP à la hauteur du moment sur l'appel au désistement et aux votants anti-RN? Moi, je trouve que la position du NFP est effectivement à la hauteur très largement. La position d'ensemble, elle est floue. Et elle est rendue floue par plusieurs choses, notamment le silence du président de la République et l'expression d'un certain nombre des responsables du gouvernement. Je pense à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui s'enterrent dans une position de nini, ni FN, ni RN, ni LFI. Et je trouve que c'est pas du tout à la hauteur du moment. D'ailleurs, il y a un article de Libé qui dit que Macron rappelle à ses ministres avoir été élu grâce à la mobilisation de la gauche. Donc on va le lire ensemble. Le titre m'a interloqué. Attendez, je vais baisser ma cam. Hop, hop. Non, comme ça, voilà. Le titre m'a interloqué, donc on va le lire. Un entre-deux-tours mouvementé débute ce lundi 1er juillet. Après le score imposant du RN, la gauche, qui se retire partout où elle est arrivée en troisième position, appelle les macronistes à clarifier leur position. En résumé, non, on s'en branle du résumé. Ah non, mais c'est le fil info, c'est pas un article. Voilà. 16h57. Macron, pas une voix à l'extrême droite. Trois quarts d'heure de réunion à l'Élysée avec des ministres à midi et un petit sursaut d'humilité du chef de l'État. Je cite, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Il faut se souvenir qu'en 2017 et 2022, en face, à gauche, tout le monde a porté ce message. Sans cela, votre serviteur et vous ne serions pas là. Eh ben, c'est bien de s'en souvenir, Manu, dis donc. C'est chouette de le dire ça comme ça, mais pourquoi il le dit en réunion à l'Élysée et il le dit pas face à une caméra? C'est effectivement un élément important. Une indication à donner aux électeurs centristes un peu perdus, qui savent pas trop s'il faut s'abstenir ou pas. Emmanuel Macron n'a pas pour autant formulé de consignes claires. Dans une ambiance très lourde, trois ministres autour de la table ont annoncé s'être désistés pour barrer la route au Rassemblement National, Sabrina Agresti-Roubache, Marie Guévenoux et Fadila Khattabi. Je serai toujours là pour guider le pays, toute forme de désunion est une garantie de perdre. Eh bah ça tombe bien, on t'en proposait une d'union qui s'appelle l'Union républicaine. C'est peut-être le moment là. Peut-être qu'il est en train de se dire j'ai déconné, j'aurais pas dû dissoudre. En même temps, il est fini, Macron. Je vois pas pourquoi on se fait chier à discuter de lui. Enfin, il est fini. Pas pour ses électeurs. C'est pas son genre. Non, effectivement, c'est pas son genre. Mais bon, Gabriel Attal est en train de faire ses cartons, donc c'est fini, le macronisme. Gabriel Attal soutient quel parti ? Gabriel Attal a été clair, il appelle à voter pour n'importe quel candidat qui est face au Rassemblement National au second tour. Y compris la France Insoumise, a-t-on précisé dans son entourage hier soir. Si Macron se rallie à la gauche, ça risque pas de faire monter les voix du RN par défiance? Bah non, les voix du RN, elles sont déjà au RN. Il va pas en fabriquer des nouvelles. Et puis il va pas se rallier à la gauche. C'est pas la même chose d'appeler à faire barrage au Rassemblement National et de rejoindre la gauche. C'est pas la même chose, hein. Vous pouvez ne pas être de gauche et faire barrage au Rassemblement National. Vous pouvez être centriste et choisir de faire barrage au Rassemblement National. Parce que moi, il y a quand même un élément que je trouve intéressant à analyser là-dedans, c'est que les électeurs de gauche sont habitués depuis 7 ans à voter pour des gens avec qui ils sont en désaccord au second tour. Voilà, les électeurs de gauche, ils sont allés voter Macron en 2017 et en 2022. Pareil aux législatives, dans certaines circos, où parce que la gauche a été éliminée au premier tour, ils ont voté pour un macroniste pour faire barrage au Rassemblement National. Les électeurs centristes, eux, ils ont jamais eu à faire le choix. Ils ont jamais eu à la mort dans l'âme aller voter pour quelqu'un avec qui ils sont pas d'accord. En fait, c'est la première fois que ça leur arrive. Ils se sentent tout bêtes dans l'isoloir là, avec leur bulletin. Comment Fabien Roussel a-t-il pu perdre dès le premier tour? Bah parce que je crois que c'est le RN qui a été élu dès le premier tour. Ou alors il y a un second tour et il a été éliminé? Il n'a pas fait 12,5% des inscrits? Je sais pas. Si les électeurs centristes avant 2017, ils devaient toujours se rallier à un camp ou à un autre. Oui, mais pas depuis 2017. Pas depuis 2017. Ça fait longtemps, hein, ça fait 7 ans. RN élu au premier tour pour Roussel. D'accord. C'est ce que j'avais cru lire, ouais. On voit et on n'entend pas beaucoup Fabien Roussel, même avant les élections, une raison. C'est parce que c'est un petit parti, le Parti communiste français, c'est un petit groupe de députés, hein. Ils ne sont pas très nombreux. Du coup, j'ai une question, pourquoi faire barrage à la démocratie? Parce que pour toi, l'extrême droite, c'est la démocratie? On risque d'avoir un désaccord, toi et moi. Si le RN n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, pourront-ils voter les lois? Ah oui, bien sûr. Bah, ils restent députés, hein. Ils participeront au scrutin. Ils voteront pour, contre, ils feront des amendements. Est-ce que tu streames le débat ce soir? Non, j'ai pas les droits de diffusion. Je les ai pas demandés non plus. Je vous avoue que les débats, c'est pas les émissions politiques que je préfère. Je trouve ça très suranné et pas très intéressant éditorialement. Sur 31 triangulaires avec Ensemble en troisième et LFI présent, seulement 8 candidats Ensemble ont désisté. Ouais, j'ai vu que dans les désistements, on commence à faire la comptabilité des désistements. Il y a 122 candidats de gauche qui se sont désistés et 46 candidats Ensemble qui se sont désistés. Alors attention, ça ne veut pas dire que les candidats Ensemble se désistent moins, ça veut surtout dire qu'ils sont moins souvent arrivés en troisième position. Au total, il y a 129, 169 désistements qui ont été comptabilisés. Et effectivement, il y a des désistements qui résistent, qui ne se font pas, notamment de la part de candidats macronistes, qui refusent de se désister en faveur d'un mélenchoniste. Après, il y a certaines circos, il faut regarder. Il faut, parce que parfois, il faut regarder dans le détail de la circo. Il y a des désistements qui sont utiles parce que ça empêche le RN de remporter la circo. Il y a des désistements parfois où c'est pas très grave qu'il y ait une triangulaire. Parce que en vrai, le RN est très loin et n'arrivera pas à remporter la Circo. Donc il y a des désistements qui sont moins graves que d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des triangulaires qui sont moins dangereuses que d'autres. Les triangulaires dangereuses, c'est celles où le RN risque de gagner. De toute évidence. Par exemple, s'ils ont fait 40%, 45% des voix au premier tour, là, t'as intérêt à avoir qu'un seul candidat face à lui. Et à l'inverse, parfois, si le RN a fait péniblement 20% et qu'en face, il y a deux candidats qui ont tous les deux fait 40, bon, c'est pas très grave s'ils ne désistent pas l'un pour l'autre. Je vous rappelle que la règle en cas de triangulaire, c'est que c'est celui qui a le plus de voix qui gagne. Il n'a pas besoin de faire plus de 50%, juste le plus de voix. Si le RN est en troisième, là, il y a juste un match entre LFI et Ensemble. Oui, c'est ça. Bon, faut vérifier qu'ils sont vraiment loin derrière. Vraiment vérifier qu'il n'y a pas un risque très dangereux. Combien de quadrangulaires? Il y en a 5 des quadrangulaires possibles. Possibles. Je vous rappelle que les candidats ont jusqu'à demain 18h pour retirer ou pas leur candidature. Pourquoi le RN est antidémocratique précisément? Mais parce qu'il remet en cause le principe d'égalité entre les citoyens, en faisant un tri selon leur nationalité, selon leur binationalité, selon leur genre, selon leur orientation sexuelle. Est-ce qu'on a à nouveau une enveloppe électorale? Quoi? Qu'est-ce que t'appelles une enveloppe électorale? La petite enveloppe qu'on te donne au bureau de vote? Bah oui, t'en auras une. Dimanche prochain. Que peut faire un député sans étiquette à l'Assemblée, QAG, commission? Un député sans étiquette, il a moins de pouvoir qu'un député inscrit dans un groupe, puisque le principe du groupe, c'est justement d'avoir du pouvoir collectif. Les députés sans étiquette ont peu de temps de parole. Ils ont ils choisissent pas leur circonscription, leur commission, ils sont affectés d'office. Ils peuvent déposer des amendements, par contre, ça c'est un pouvoir propre du député. Ils peuvent déposer et défendre des amendements, ils peuvent participer au vote, évidemment, sur les lois. Mais ils n'ont pas de droit de tirage sur des commissions d'enquête, ils n'ont pas tous les avantages des groupes, en fait. Le principe d'un groupe de députés, c'est qu'il a du pouvoir en tant que groupe. Donc il a du temps de parole dans les débats, il a une place au bureau de l'Assemblée nationale, à la conférence des présidents, pour décider de l'ordre du jour, pour inscrire des textes, ils ont des niches parlementaires, ils ont des droits de tirage pour faire des commissions d'enquête, ils peuvent faire aussi des missions d'information. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent rejoindre un groupe en cours de leur mandat? Oui, un député peut rejoindre un groupe, quitter un groupe, changer de groupe, oui, bien sûr. Le PCF n'aura pas de groupe. Je me demande avec qui ils iront, les socialistes, les verts. C'est une bonne question. Le Parti communiste français n'aura pas de groupe à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est fou, ça. C'est une page de l'histoire parlementaire française qui se tourne avec la disparition du groupe communiste. Il y a toujours eu un groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il y a même une époque où on a baissé le seuil du nombre de députés requis pour faire un groupe de manière à ce que les communistes aient toujours un groupe. Alors en général, les communistes, ils s'alliaient avec des élus ultramarins pour avoir le nombre suffisant, la masse critique pour faire un groupe. Mais là, ça risque de même pas suffire. Aujourd'hui, le seuil, c'est 15. Il faut avoir 15 députés pour former un groupe. Je pense pas que les communistes auront 15 députés. On verra. Il y aura peut-être quand même un groupe, hein. Ils vont peut-être y arriver. Est-ce que tu serais capable de m'expliquer pourquoi le droit à l'avortement peut être menacé alors qu'il a été noté dans la Constitution ? Ce qui a été noté dans la Constitution, c'est le principe du droit à l'avortement, son effectivité, son exercice par les femmes. Ce qui n'a pas été inscrit dans la Constitution, c'est le délai légal, par exemple. Le RN pourra revenir sur le délai légal. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils le feraient. Comme aux États-Unis. Ensuite, le droit à l'avortement, pour qu'il soit effectif, il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait des centres IVG. Il faut qu'il y ait des plannings familiales. Pas sûr que ce soit dans les priorités d'un ministère de la Santé RN de financer des centres IVG. Donc peut-être que le droit va être rogné par simple fait qu'il n'y aura pas de centre IVG accessible rapidement et proche des femmes. Et les médecins qui acceptent de le pratiquer, il y a aussi ça, le nombre de médecins qui acceptent de le pratiquer, comment il est remboursé, comment les médecins gagnent de l'argent en le faisant, ça aussi ça peut être rogné. Donc peut-être qu'on va simplement décourager des médecins qui prendront plus d'IVG parce qu'ils n'auront plus les moyens d'assurer des IVG et qui se concentreront sur d'autres actes. Voilà, tu vois. Voici quelques exemples de comment est-ce qu'on peut rogner un droit qui est inscrit dans la Constitution. Je me demande combien de temps va mettre Darmanin pour passer au RN. Non. Non, il passera pas au RN, Darmanin. Est-ce que le RN pourrait chercher à changer la Constitution? Oui, il pourrait essayer. Pas sûr qu'ils y arrivent. Pour changer la Constitution, il faut voter une loi. Et il faut voter une loi dans les mêmes termes entre l'Assemblée et le Sénat. Y a Baxi jeudi. Ouais, y a Baxi jeudi. Soyez là jeudi soir. Un référendum? Pour qu'il y ait un référendum, il faut que le président de la République convoque un référendum. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron offre sur un plateau un référendum au RN. Peut-on dissoudre le Sénat? Non. Et mettre à pied le Conseil constitutionnel, il pourrait? Non, il ne pourrait pas. Le Rassemblement national ne pourrait pas mettre à pied, comme tu dis, le Conseil constitutionnel, puisque les pouvoirs du Conseil constitutionnel sont garantis dans la Constitution. Ils pourront nommer des gars au Conseil constitutionnel. Ils pourront nommer un tiers des membres du Conseil constitutionnel, mais pour ça, il faudra qu'ils attendent que les membres du Conseil constitutionnel arrivent à la fin de leur fonction. Donc, à mon avis, ils vont en nommer un d'ici à 2027, et après, on verra. Donc, un sur neuf, ça fait pas basculer le Conseil constitutionnel. T'as des exemples de moments où le RN s'est ouvertement montré homophobe, son opposition au mariage pour tous. Ça me paraît pas mal. Ça ne le fait pas basculer, mais c'est un début. Oui, bien sûr. Oui, j'aurais pu parler des passages à tabac d'homosexuels par des militants du Rassemblement national. C'est vrai que c'est un bon exemple aussi. Bardella qui a sous-entendu que lui, Premier ministre, serait le chef des armées, s'il veut faire un coup d'État avec le soutien de l'armée, en a-t-il la possibilité? Non. Enfin, tu me diras, c'est le principe d'un coup d'État que de s'extraire du droit. Donc faut pas demander à un constitutionnaliste s'il pourrait le faire. La réponse est non. Mais en réalité, prendre les armes, c'est prendre les armes. C'est ça un coup d'État. Mais fonctionnellement, l'armée est sous l'autorité du président de la République. Le Premier ministre, lui, s'il a une majorité, il peut gérer le budget de l'armée. Ce qui n'est pas neutre, mais c'est pas opérationnel, quoi. Est-ce que le pays va être gouvernable en l'état? Ça, j'en sais rien. Ça, on verra dimanche prochain, les gars, hein. Dimanche prochain, le plus probable, c'est une majorité Rassemblement national, relative ou absolue. Une autre possibilité, moins probable, mais possible quand même, c'est une majorité Front populaire. Et le scénario le plus probable de tous, c'est un blocage institutionnel avec aucune majorité. Trois blocs égaux, ça a peu de chances d'arriver. Il n'y aura pas trois blocs égaux. Il y aura un bloc Rassemblement national qui sera le premier bloc de l'Assemblée nationale et de loin, à plus de 200 députés. Il y aura des Républicains qui auront quelques dizaines de députés, peut-être 30, peut-être 40. Il y aura des Macronistes qui auront peut-être 60, 70 députés. Et il y aura le nouveau Front populaire qui aura peut-être 150, 165, 170 députés. Donc c'est pas des blocs égaux, hein. Ce sera largement le RN qui sera en tête. Tu vas voter pour qui, toi? Moi, je vais voter pour le candidat ou la candidate qui est face au RN dans ma circo. Je vais même pas regarder, j'en ai rien à foutre. À quel point c'est un problème d'avoir un blocage institutionnel? C'est un problème dans le sens où il n'y a aucune politique qui est menée. On a un gouvernement faible. On a un gouvernement qui dirige les ministères comme des fonctionnaires, comme des hauts fonctionnaires, qui n'ont pas les coudées franches pour prendre des décisions qui engagent des réformes, des changements, des évolutions. Vaut mieux ça que le RN. Oui, sans doute. Mais ce n'est pas de nature à apporter des solutions aux électeurs du RN. Ça va même plutôt les maintenir dans le statu quo, qui ne leur convient semble-t-il pas. Et la situation va pas s'améliorer pour les gens. Donc ça va pas être un... Entendons-nous bien. Oui, je préfère ça au RN. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas une solution miracle. Après, c'est une remarque un peu bête, mais mettre des pros de leur domaine, ça pourrait pas remettre les choses bien. Non, ça marche pas, ça. Il faut pas penser comme ça. Regarde, Emmanuel Macron, il a nommé des gens, il a nommé des techniciens à plein de postes. C'est pas neutre, un technicien. Faut pas croire qu'un technicien fera mieux le boulot qu'un député, qu'un ministre politique. Faut pas opposer le technicien au politique, ça marche pas comme ça. Les politiques sont là pour mener des politiques, pour emmener des changements. Comment il s'appelait? Jean-Michel Blanquer. C'était probablement le meilleur technicien de l'éducation nationale qu'on a jamais eu au ministère de l'éducation nationale. Et qu'il a été directeur général de l'enseignement scolaire, il a été recteur d'académie, il connaît par cœur la maison, il a fait toute sa carrière dans la maison, pratiquement, il a même une expérience dans le privé, toujours dans l'enseignement, mais dans le privé. Enfin, Blanquer, voilà, c'est le meilleur technicien de l'éducation nationale qu'on a jamais eu au ministère de l'éducation nationale. Bon, est-ce que les gens étaient satisfaits pour autant? Bah. On peut en discuter. On avait Julien de Normandie qui était ministre de l'Agriculture. Il est ingénieur agronome. Excellent technicien de l'agriculture. Très bon connaisseur des dossiers. Connaît les chiffres, connaît les machins, etc. Bon, est-ce que les agriculteurs sont contents? Là, c'est plus compliqué que ça. Donc non, je vous invite à ne pas fantasmer sur les techniciens au pouvoir. Ce qu'on a, en fait, on appelle ça porte un nom, hein, ça s'appelle le technosolutionnisme ou la technocratie. C'est l'idée de mettre des spécialistes au pouvoir, comme si leur spécialité leur donnait une espèce de gage de bonne politique. Mais en fait, ce qui fait une bonne ou une mauvaise politique, c'est un sujet de débat démocratique. C'est même pour ça qu'on a un parlement, pour en discuter de ça. De ce qui est du domaine du souhaitable. C'est ça la politique. C'est le débat sur le souhaitable, sur l'envisageable. C'est pas le débat sur le possible. Ça, c'est un débat de technicien, justement, oui. Tu mets des jurys, tu fais des colloques avec des spécialistes qui vont te dire effectivement le domaine du possible. Et le politique, il n'est pas là pour ça. Il est là pour engager des changements. C'est bien de prendre des avis d'experts aussi. Ah, bien évidemment, une politique publique doit se concerter avec des experts qui doivent la critiquer, qui doivent la penser, qui doivent l'articuler. Je vous avais parlé d'un exemple qu'on donne souvent dans l'histoire, c'est la campagne des nuisibles. La campagne des nuisibles de Mao Tse-tung. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était les années 50, je crois. Mao Tse-tung donc dirigeait la Chine communiste, et les agriculteurs chinois avaient un problème parce que quand ils semaient les graines dans les champs, il y avait des piafs qui venaient bouffer les graines, et il y avait une perte de productivité agricole à cause de ces connards de piafs qui venaient bouffer les graines dans les champs. Du coup, le Parti communiste chinois et Mao Tse-tung décident d'une grande campagne d'éradication des nuisibles. C'était la campagne des nuisibles, où, alors je vous laisse imaginer la machine communiste qui se met en place et tout le monde qui se met à buter des piafs partout dans les campagnes chinoises. Et ça marche super bien. Ils éradiquent quasiment la population de différents piafs. Il y avait notamment les moineaux. On a parlé des moineaux de Mao. L'année suivante, la Chine a connu la plus grande invasion de sauterelles de toute son histoire, qui a ravagé les cultures et qui a tué plusieurs millions de personnes. Parce qu'en fait, les oiseaux, en plus de bouffer les graines, c'était les prédateurs des sauterelles. la campagne des nuisibles, qui était une bonne politique en faveur des agriculteurs, était en fait un désastre absolu pour la Chine. Conclusion, le communisme, c'est mal. Alors, on pourrait discuter des exemples similaires pris aux États-Unis d'Amérique, qui ont tapissé de bombes le Nevada, qui ont envisagé de faire péter des montagnes entières avec des explosions nucléaires pour faire de l'excavation. Alors, si on part dans l'écologie, je te jure que le capitalisme, il n'est pas meilleur que le communisme. Le communisme est un fiasco absolu du point de vue de l'écologie. J'ai pas dit le contraire. Mais le capitalisme est... pas meilleur. Donc voilà, donc l'exemple des moineaux de Mao, c'est un des exemples de... sur le papier, ça a l'air d'être une super bonne idée. Ça fait monter ta cote de popularité chez les agriculteurs, mais dans la réalité de la mise en œuvre, c'est un fiasco absolu. Voilà. C'est de l'ingénierie climatique, c'est pas ouf. Ouais. La théorie de Clément Viktorovitch qui c'était de former des citoyens en nouvelle assemblée constituante, tu y crois? Alors j'ai entendu Clément, mon ami Clément, expliquer son vœu, un peu pieux, mais vœu quand même, que tout ça donne naissance à une assemblée constituante, qu'en fait le blocage institutionnel probable, dans une semaine, donne naissance à un processus de réforme des institutions et d'amélioration de la démocratie. Un des arguments qu'il soutient, que je trouve intéressant, c'est que Emmanuel Macron aime bien faire des coups politiques. Et je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron, dans sa tête, il se dirait que pour laisser une trace dans l'histoire un peu meilleure que le RN, il mettrait en œuvre un processus d'assemblée constituante à même de donner naissance à une nouvelle république. J'y crois pas, mais Clément reconnaît lui-même que c'est peu probable. J'y crois pas parce que c'est pas la volonté de Macron. Macron a déjà engagé une réforme des institutions qui s'est arrêtée en 2018, qui n'a jamais réouverte depuis parce qu'il n'en avait pas les moyens politiques, effectivement. Et sa réforme des institutions ne prévoyait pas de changement drastique de la Ve République. Si Macron fait spawn une nouvelle république, ça reset donc ses mandats. Si d'aventure, dans la nouvelle république, il est écrit qu'il n'y a plus de limite au nombre de mandats successifs, oui. Mais une république, ça pop pas en 3 ans. Hein. Enfin, celle de 58, si. Elle a popé en 6 mois. Un processus d'assemblée constituante, c'est long. Au final, le RN serait toujours là. Oui, en plus, ce serait pas une solution magique. Quel intérêt d'écouter ce genre de streamers qui n'ont aucune objectivité? Aucun intérêt. Aucun. C'est du temps perdu. Pourquoi la gauche peine à passer au pouvoir? Parce qu'elle est divisée, parce qu'elle a du mal à se mettre d'accord. Or, accord de raison de type coalition législative, la gauche n'arrive pas à parvenir à l'Élysée. Enfin, les deux seuls qui ont réussi, c'est François Mitterrand et François Hollande. Mais depuis... Elle n'a pas de socle électoral. Elle a un socle électoral qui s'étiole. Alors, tu as beaucoup d'analyses électorales qui montrent que les réservoirs de voix de la gauche, il y en a deux. Il y a les modérés, en gros les gens qui ont voté Macron en 2017 et 2022. Une partie des gens qui ont voté Macron, je veux dire. Et l'autre réserve de voix, c'est les abstentionnistes. « 90% d'impôts pour les plus de 400K, c'est pas du communisme. » Non, c'est pas du communisme. Toi qui parles de constitution, c'est anticonstitutionnel ce que veut faire le nouveau Front Populaire là-dessus. Non, c'est pas anticonstitutionnel, ça a déjà existé. Taux marginal d'imposition, ça a déjà existé. La dernière fois, c'était au moment du choc pétrolier. La division de la gauche, c'est juste une lutte de pouvoir de petits chefs qui ont leurs intérêts personnels qui passent avant l'intérêt général. Je suis pas d'accord avec toi. La division de la gauche, elle s'explique par le fait qu'il y a plusieurs gauches. Il y a plusieurs camps dans la gauche française. Et c'est pas nouveau. Ça fait 2 siècles qu'il y a plusieurs camps dans la gauche française. Il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs approches. Des approches plus révolutionnaires, des approches plus réformistes. Maintenant, il y a des approches écologistes. C'est pas... Il faut reconnaître que tout le monde n'est pas d'accord à gauche. Sur l'essentiel, ils le sont, notamment sur l'opposition au RN. Mais sur les politiques à mener, ils ne sont pas tous d'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a plus d'abstention à gauche qu'à droite? Non, il y a plus d'abstention chez les pauvres. Et le réserve de voix naturelle de la gauche, historiquement, c'est censé être les classes populaires, qui sont celles qui s'abstiennent le plus. Vous avez deux électorats qui sont les plus mobilisés, ce sont les vieux et ce sont les riches. Plus on est vieux, plus on vote, plus on est riche, plus on vote. En gros, vous voulez qu'on bosse du lundi au jeudi pour des impôts et le dimanche, le samedi pour survivre. Tu gagnes 400K par mois? Tu pourrais faire un don, s'il te plaît, sur ma chaîne? Je suis désolé. Je suis désolé pour toi que ce soit si insupportable de gagner 400 000 euros par an. N'hésite pas à sécher tes larmes avec tes billets. Et surtout, lâche des abos, mec. C'est bon, là. Si le NFP remporte les élections, qui serait le Premier ministre selon toi? J'en sais rien. Vraiment, hein? J'en sais foutre rien. Perso, je suis prêt. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon, un grand homme, j'y suis prêt. Eux non plus, je pense qu'eux non plus n'en savent rien. Qu'avait répondu Laurent Berger? Rien. Le problème d'un Premier ministre Front Populaire, c'est que ça doit être quelqu'un qui rassemble une majorité Front Populaire et alliés. Parce que, encore une fois, il y a très peu de chances que le Front Populaire réussisse à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, va probablement falloir négocier avec les macronistes pour faire un gouvernement d'union. Donc, aller trouver une personnalité qui convienne à la fois aux insoumis et aux macronistes. Alors, Laurent Berger, c'est une idée. Laurent Berger, c'est l'ancien patron de la première centrale syndicale de France, qui est un syndicat réformiste, la CFDT, donc qui pourrait potentiellement plaire aux macronistes. Et en même temps, c'est lui l'artisan de l'union syndicale avec la CGT, dans l'opposition à la réforme des retraites. Donc, peut-être que les LFI pourraient se dire, c'est pas une si mauvaise idée. « Valérie Rabault, non, Valérie Rabault, elle est en rupture de ban avec le Parti Socialiste, avec Olivier Faure et avec la NUPES. Donc. Sophie Binet, elle est vue comment par les macronistes? Bah, elle est vue comme une gréviste à la tête de la CGT qui n'a pas de responsabilité économique, qui n'y comprend rien. Enfin, non, mais cherchez pas, hein, la CGT, c'est mort. Enfin, c'est pas parce que vous aimez bien Sophie Binet qu'il faut vous dire que ce sera elle, hein. Je suis désolé de vous annoncer que CGT. Je suis désolé, vous m'entendez quand je tire sur ma cigarette, c'est chiant. Pour moi, Tondelier est parfaite, elle est vue comment par les macronistes? Je sais pas. Bah, elle est anti-nucléaire. Alors, est-ce que c'est rédhibitoire? J'en sais rien. Mais. Jean Lassalle, c'est un bon mec, un bon vivant. Jean Lassalle est un agresseur sexuel. Arrêtez de faire des blagues avec Jean Lassalle, c'est plus drôle. Depuis 10 ans à peu près qu'on le sait. Faut qu'elle temporise sur le nucléaire. Oui, il faut qu'elle tempo carrément, oui. ASMR politique et vapoteuse, on tient un nouveau concept. C'est le tréma qui va valider ça. Tu l'as dit 100 fois, désolé, mais que se passe-t-il si une motion de censure passe après les élections du 7 juillet? Alors il n'y a plus de gouvernement et on retourne au point de départ. C'est-à-dire qu'il faut former un gouvernement qui ne se fasse pas dégager par une motion de censure. Donc un gouvernement technique qui, au mieux, ménage les abstentions. Pas ouf, hein. A-t-on déjà eu un Premier ministre qui ne fasse pas partie d'un grand corps d'État? Gabriel Attal. Il n'est pas dans un grand corps. Il n'a pas fait l'ENA. Est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas à voter la semaine prochaine selon notre circonscription? Oui, c'est possible si un député a déjà été élu. Il y a des députés qui ont été élus dès le premier tour, hein. Je vous invite à vérifier dans votre circo, parce que sinon vous allez vous retrouver comme un con devant la porte fermée du bureau de vote. Moi, je sais que j'ai la procuration de ma sœur. J'ai pas besoin d'aller voter. J'ai vu, il y a eu un député élu dès le premier tour. Ça m'économise le déplacement, c'est cool. ,83% le député dans ma circonscription. C'est con, hein? C'était pas loin. Mélenchon, Premier ministre, c'est mort. Je te répondrai mieux dimanche soir, mais ça a très 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 peu de chances d'arriver. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté médiatique d'invisibiliser la gauche? Oui, dans certains médias, notamment dans les médias du groupe Bolloré, il y a une ambiance à la quasi-criminalisation des idées de gauche, au rejet des idées de gauche. La gauche est devenue un intolérable, un impensable, quelque chose qui est indicible sur les plateaux. qui sort de la fenêtre d'Overton de l'acceptable. L'extrême droite est très bien installée, elle déroule ses thèmes très facilement dans ces médias-là. Mais la gauche, il n'y a qu'à voir les réactions de Pascal Praud quand il entend des idées de gauche, Pascal Praud étant l'animateur de l'émission, il donne bien le la de la manière dont sont considérées ces idées. Donc il y a une partie, oui, du paysage médiatique, et pas des moindres, qui est particulièrement hostile à la gauche, par opposition à ce qu'on a pu connaître dans les années 80, où tout le monde était de gauche à la télé, parce que c'était normal, c'était les socialistes qui étaient au pouvoir, etc. Bon, après, il y a quand même eu les années fric, donc il y a quand même eu un revival des idées de droite moderne, inscrit dans une modernité de la mondialisation, qui a réussi à avoir voix à la télévision. Mais voilà. Le modem, ils sont plus proches du RN ou du Nouveau Front Populaire? Ça n'a pas de sens, cette question. Ça n'a pas de sens. Je peux pas te répondre. Ça marche pas comme ça. Le modem, c'est un parti de centre indépendant, européiste, libéral, conservateur. Voilà. Tu prépares un crowdfunding en cas de présidentiel cet été? L'enfer. Je vais essayer de prendre des vacances aussi un peu, hein. Conservateur de quoi? Sur les mœurs, le modem est plutôt conservateur. Très chrétien-démocrate. Et plus chrétien que démocrate. Il y a une opposition historique de François Bayrou, le leader du modem, au mariage pour tous, par exemple. Ils sont très fébriles sur la fin de vie. C'est terriblement con d'imaginer ça, mais est-ce qu'il aurait été possible que des trentaines de citoyens par circonscription se seraient présentés sous des fake noms couleur RN pour tromper leurs électeurs? Ça aurait pu faire perdre des pourcents au RN. Ça, c'est ce qui se passe dans les dictatures. Ce que tu décris, notamment en Russie, c'est une des techniques utilisées par le parti de Vladimir Poutine, le parti Russie Unie. Quand ils veulent empêcher un opposant politique de remporter une élection, ils présentent dans la même circonscription, ou dans la même ville pour les municipales, ils présentent des homonymes. Ils prennent l'annuaire et ils trouvent des homonymes aux mecs, ils les contactent, ils leur font pression. En leur disant on va te présenter à l'élection. Il leur donne de l'argent parfois pour les faire accepter. Et comme ça, quand t'arrives dans le bureau de vote, t'as plein de bulletins de vote avec le même nom dessus. Et du coup, ça perd les électeurs qui savent plus pour qui il faut voter. Et du coup, ça dilapide les voix. C'est une stratégie. C'est une stratégie de Vladimir Poutine. Donc c'est de la merde. Comme idée. C'est arrivé en 2022 dans la circo de Sandrine Rousseau. Oui, j'avais vu ça. Il y avait une autre Sandrine Rousseau qui s'était présentée, ouais. Ouais, j'avais vu. Tout n'est pas bon pour faire barrage au RN. Bah non, le trucage d'élection n'est pas bon. Je sais pas, quand on est démocrate, on essaye d'éviter. Penses-tu que la fin justifie les moyens? Bah justement, non, je pense pas. C'est comme si vous me disiez, et si on allait péter les genoux des vieilles dames, au moment d'aller voter? Bah je sais pas, c'est une agression sur personne, quoi, c'est pas... c'est pas neutre. Fun fact, la dictature n'est pas un moyen de faire barrage au RN. Oui, voilà, c'est ça. Si on faisait des trucs d'extrême droite pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Non. Et sinon, on fait comment pour pas déprimer? On reste mobilisé? Après l'élection aussi? C'est pas la fin de l'histoire, hein? Le second tour de l'élection législative. C'est pas la fin de l'histoire. Prends un verre. Oui, prends un verre. Hello, je connaissais pas ta chaîne, mais c'est une très bonne découverte. J'aime ta façon d'expliquer et de voir les choses. GG à toi pour ton boulot. C'est gentil. Ça me touche beaucoup. Merci à toi. Bienvenue. Installe-toi, lâche un follow, lâche un sub. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Tout ça, tout ça. Blablabla. Comment se mobiliser? Eh bah, en s'engageant. En s'engageant dans une ONG, dans un, pourquoi pas un parti politique ou un mouvement politique. De contestation, la manifestation peut être une bonne manière de se sentir ensemble, partager sur Internet, faites ce que font tous les gens de gauche sur Internet, c'est-à-dire insulter d'autres gens de gauche. Comme ça, vous vous sentirez bien de gauche. C'est un peu narcissique, mais... Est-ce que t'es en slip aujourd'hui? Non, j'ai mis un short. Je vous respecte. Sub à ma chaîne, mais oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi la droite dit que LFI est extrême? Parce que la droite considère que les propositions et les méthodes de la France insoumise sont contraires à l'esprit... républicains. Ils utilisent notamment le brouhaha à l'Assemblée nationale provoqué par les députés insoumis, en montrant que ce sont des comportements anti-parlementaires, etc. C'est ça leurs arguments. LFI est anti-républicain? Non, LFI n'est pas anti-républicain. LFI n'est pas un parti anti-républicain. Ils ont même tout un délire autour de la République française, autour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abolition des privilèges, 1789, l'esprit jaurétien du socialisme par le fait de parfaire l'idéal républicain, etc. Les Insoumis, c'est quand même un parti de gauche qui secoue des drapeaux bleu-blanc-rouge dans ses meetings. C'est le seul parti de gauche qui fait ça depuis des décennies. Ils ont tout un délire autour de la République, les insoumis. Ils sont pas anti-républicains. Antoine Léaumont, non mais voilà, juste Antoine Léaumont. On peut pas dire à quart de seconde qu'il est anti-républicain. Même hier, dans le discours du vieux à Répu, pas plus républicain que ça. Mais oui, non mais... Classic shit. Après, on peut avoir des débats très intéressants pour savoir ce que si c'est vraiment républicain, etc. Machin, mais non, la France insoumise n'est pas anti-républicaine. Il y a des partis d'extrême gauche dans ce pays, ça existe, qui prônent la révolution prolétarienne, l'abolition de l'État et de la République. Bon, voilà. Là, on peut plus en discuter, quoi. LFI, c'est pas ça. Et les filles, ils sont turbo-parlementaristes. Ils prônent même une nouvelle république. Enfin, tu sais. LFI fonctionne-t-il de manière démocratique ? Oui. Puisque Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Est-ce que la montée du RN va entraîner de la désobéissance civile? Ah, c'est possible que si le Rassemblement National arrive au pouvoir, il y ait des actes de désobéissance civile, hein. Est-ce qu'un parti est démocratique? Ça dépend des partis. Il y a des partis qui le sont un peu trop. Le NPA, par exemple, bon. Il y a un moment, ils sont tellement démocratiques qu'ils scindent le parti en deux. Pourquoi BHL estime que le NFP est un tremplin pour le RN? C'est un de ses derniers tweets. Écoute, j'ai jamais vraiment fait l'exégèse des tweets de BHL, je t'avoue. Pourquoi il pense ça? Parce que ça doit. Il doit estimer que le nouveau Front Populaire est trop radical, il fait peur aux gens, et que donc c'est un repoussoir, et que donc ça incite les gens à voter RN. Voilà, je suppose que ça doit être plus ou moins ça, son truc. Tu penses qu'on va réussir à sortir du positif de cette élection? Écoute, j'en sais rien. Je sais pas. C'est une page de l'histoire politique qui est en train de s'écrire. Donc on va avoir peut-être effectivement une gauche unie. On va peut-être avoir une gauche unie, on va peut-être avoir pas unie. Est-ce que ça le restera jusqu'en 2027, c'est ça la question. Si le RN passe, on est d'accord que c'est un gros changement dans le monde entier. Si le Rassemblement National arrive au pouvoir en France, ça va poser des grosses questions dans les chancelleries du monde entier, oui. Oui, la France est un acteur majeur, c'est un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un allié, déjà c'est un pays européen, un des pays fondateurs de l'Union Européenne, un des plus gros pays de l'Union Européenne, c'est un allié des États-Unis, ça va... Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite, est-ce qu'il y a aussi un extrême centre? Oui, la notion d'extrême centrisme est développée de plus en plus par un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels, de politologues, qui accusent Macron d'être un des responsables d'un extrême centrisme, d'une radicalité du centre autoritaire, antidémocratique, qui n'accepte qu'elle-même. Les gens qui te disent ni RN ni LFI, ni RN ni Front Populaire, ils te disent qu'en fait, la seule chose qui est acceptable, c'est le macronisme. Tout ce qui n'est pas macroniste est inacceptable. C'est en soi une forme d'extrémisme. C'est une radicalité. D'où vient le refus qui me semble un peu artificiel de la LFI d'être qualifiée d'extrême gauche? La LFI n'est pas d'extrême gauche. La LFI n'appartient pas à ce qu'on appelle en France l'extrême gauche. L'extrême gauche, elle existe, elle a une histoire, elle a une définition précise, elle a des organisations, elle a des candidats, elle a des responsables, elle a une philosophie, elle a une pensée, etc. Et tout ça existe. On ne peut pas le nier, ça. Et parmi les caractéristiques de l'extrême gauche, il y a quand même le principe révolutionnaire. L'idée de renverser le système, de sortir de l'économie de marché, de l'économie capitaliste, de renverser même l'État, parfois. La France insoumise inscrit son programme, sa pensée, dans le réformisme, qui n'est pas d'extrême gauche, qui appartient à la gauche. La gauche, en France, c'est grand. Il y a plein de gens dans la gauche, il y a plusieurs gauches en France. La gauche, elle est plurielle. Elle n'a pas une seule définition, la gauche. Le PSF est-il encore révolutionnaire? Non, le PSF n'est plus révolutionnaire depuis les années 60. Depuis qu'ils ont fait le premier programme commun. Donc voilà. C'est bien dommage. Oui, après, le Parti communiste français, il est réformé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a aussi fait le bilan du stalinisme. C'est aussi ça, l'histoire du Parti communiste français. C'est quand même un alignement sur Moscou. Il y a un moment, bon, les communistes eux-mêmes, ils se sont dit, c'est pas ouf. Comme qui dirait que l'URSS n'est pas le paradis des travailleurs. Genre vraiment pas. Le NPA, c'est d'extrême gauche. Le nouveau parti anticapitaliste est effectivement d'extrême gauche, oui. D'après toi, quel est le pourcentage de chances que Macron redissolve dans un an? J'en sais rien du tout. Ça dépendra des résultats dimanche soir. On verra ça dimanche soir. Le PC s'est défait de l'URSS bien avant sa chute, alors? Non. Non. Mais les militants communistes, eux, l'ont fait. J'avais plus vu le NPA à droite de LFI. Aucune idée de pourquoi. Bah, je te le confirme, c'est étrange. Le NPA est d'extrême gauche. Le NPA, c'est un parti qui a été fondé sur les cendres de la Ligue communiste révolutionnaire, qui a le mérite d'être assez clair dans son nom, et qui, avec Lutte ouvrière, font partie des formations d'extrême gauche française historique. La France insoumise a été créée par un ancien sénateur socialiste. Déjà, c'est une indication. Au bout de combien de dissolutions, t'en as une gratuite en magasin? Est-ce que Macron peut gouverner à l'article 16? Non, l'article 16 n'est pas un article de gouvernement, ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels. C'est des pouvoirs qu'obtient le président de la République si jamais la France est dans une situation de chaos tellement grave que les pouvoirs constitutionnels ne peuvent pas se réunir régulièrement. Et l'article 16 ne permet de prendre que des mesures qui visent à rétablir le fonctionnement normal des institutions. C'est une situation d'urgence nationale. Ouais, c'est ça, c'est une situation d'urgence nationale. Un peu comme la débâcle de 1940. Je sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1940, mais la débâcle, les armées étaient défaites, la France était sur les routes, genre toute la France était sur les routes, le gouvernement a fui Paris parce que les Allemands ont pris Paris. genre l'Assemblée nationale, le Palais de l'Élysée, etc., étaient pris par les nazis. Et les gens se sont réfugiés, le gouvernement et le Parlement se sont réfugiés à Bordeaux, puis à Vichy, avant de voter les pleins pouvoirs. C'est ce genre de situation-là. C'est un moment où toute la France est à terre. Il n'y a plus de ministère, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus rien. Non, la poste. Pas un troquet, pas une mobilette, rien. Est-ce que les nouvelles majorités qui se profilent, une mesure de destitution peut pas popper? Non. Non, la destitution du président de la République, elle est décidée par la Haute Cour de justice qui doit instruire un procès sur la base de délits et de crimes. C'est pas une décision politique. Il faudrait que le président de la République manque à ses devoirs constitutionnels. Là, Macron, il a manqué à rien du tout, hein. Il a dissous l'Assemblée nationale, bon voilà. Il a le droit de le faire, c'est dans la Constitution. C'est constitutionnel le choix du chef de gouvernement en fonction des résultats aux législatives ou c'est la discrétion du président? C'est constitutionnel, en fait c'est inscrit dans la pratique institutionnelle de la Constitution. Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure si Macron fait passer ses futures lois en 49-3, étant donné que l'Assemblée a déjà été dissoute? Macron fera plus passer grand-chose hein, comme loi. Et est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure en cas de 49-3? Oui, c'est prévu par l'article 49-3 de la Constitution. C'est le principe même du 49-3 que de donner naissance à une potentielle motion de censure. Il y a quelque chose qui empêche le RN de refaire la carte des circonscriptions s'il est au pouvoir. Oui, le code électoral prévoit la méthodologie de dessin des circonscriptions. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a du gerrymandering de fou sur les circonscriptions. Ça marche pas comme ça en France. Il y a quand même des lois, il y a quand même des règles. Il y a une contestation possible devant le Conseil d'État. Donc c'est encadré. Tu fais pas n'importe quoi. Il faut forcément un 49-3 pour déposer une motion de censure? Non! Non, 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 non. Les groupes politiques ont la possibilité de déposer une motion de censure hors 49-3. Le temps passe et je n'ai toujours pas compris pourquoi Macron a fait ça. Mais bah moi non plus. Je peux pas t'aider sur ce coup-là. Il se passe quoi en cas d'absence de majorité à l'Assemblée? C'est la merde. C'est la merde, il n'y a pas de majorité, donc on nomme un gouvernement technique, c'est-à-dire un gouvernement qui n'a pas de majorité, c'est un gouvernement qui n'a pas les coudées franches pour gouverner, c'est un gouvernement qui expédie les affaires courantes, en attendant que ça passe. C'est déjà arrivé. La dernière fois qu'on a eu des trucs comme ça, plus ou moins similaires, c'était sous la 4ème République, où on avait une très forte instabilité parlementaire et donc gouvernementale. Donc on changeait de gouvernement tous les 3 mois. C'était des gouvernements de larges coalitions avec des ministres qui n'avaient absolument pas le temps de mettre en œuvre quoi que ce soit. Et la France était un peu à l'arrêt, quoi. Du coup, c'était les hauts fonctionnaires qui dirigeaient le truc pendant ce temps-là, qui mettaient en œuvre le plan Marshall. Est-ce qu'un jour la droite fera barrage? Bah, c'est le cas, là. La droite est en train de plus ou moins s'allier à l'extrême droite, si j'en comprends Éric Ciotti, pour faire barrage à ce qu'ils estiment être l'extrême gauche. C'est un barrage de droite. Et c'est possible qu'ils gagnent, hein. Si l'extrême droite remporte une majorité de députés à l'Assemblée nationale dimanche, c'est un barrage de droite qui aura fonctionné. Comment LR a pu s'allier avec le FN, pauvre Chirac? Ah non, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Éric Ciotti, il a fait un move, là. Incroyable, quand tu connais l'histoire de la droite. L'identité politique de la droite républicaine. Tu me diras, le simple fait que Ciotti soit arrivé à la tête du parti, c'est déjà en soi une longue et lente dérive, poussée par Macron. Parce qu'en fait, tous les électeurs de droite... La droite, c'est grand en France. Hein. Il y a plusieurs familles politiques dans la droite française. Il y a plusieurs traditions politiques et tout. Mais une partie de la droite française, ce sont des libéraux européens, issus de l'UDF, en gros, qui s'étaient fondus dans l'UMP. Et voilà, tous ces gens-là, en fait, ils se sont cassés dès 2017 et ils ont rejoint Macron. C'était Macron qui représentait très bien cette droite-là. Macron est un grand européen, Macron est un libéral... voilà, donc il les représentait bien, très pro-business, pro-entreprise, pour une politique de l'offre, etc. Bon, du coup, il restait plus aux Républicains que on aurait pu considérer qu'il ne restait plus que des conservateurs radicaux, catholiques, etc. C'est ce qu'on a vu avec François-Xavier Bellamy en 2019, tête de liste. Mais quand Ciotti a pris sa décision, on a vu aussi les classiques du parti réagir fortement. Et c'est vrai que quand tu connais historiquement la politique et l'identité politique d'un mec comme Xavier Bertrand, par exemple, lui, il est radicalement anti-RN. Il est fondamentalement anti-RN, Xavier Bertrand. On ne peut pas un quart de seconde imaginer une alliance avec le RN. Ou un François Baroin. Franc-maçon, etc. Enfin, c'est quand même des gens qui ont des traditions et des histoires politiques... qui les ancre plus dans un gaullisme social, et surtout dans un gaullisme, mais un gaullisme de la résistance gaulliste. Et pareil pour Pécresse. Pécresse qui a été collaboratrice de Jacques Chirac. Non, je confonds pas. Bref. Le chiracisme de 2002 à 2007, qui était un chiracisme de centre, c'était Dominique de Villepin, c'était un rejet fondamental de l'extrémisme, pour reprendre les mots de Jacques Chirac. En 2007. Donc il y a une droite républicaine française anti-RN qui s'est visiblement un peu réveillée là, contre Ciotti. Ciotti a visiblement mal jaugé son coup. Et voilà. Et la droite française est dans les limbes, quoi. Aujourd'hui, la droite française, mais moi ça fait 5 ans, 6 ans que je dis ça sur Twitch, la droite française, elle a un problème d'espace politique, elle est coincée entre le macronisme triomphant et le Rassemblement National des Diabolisés. Le RN s'est fait complètement siphonner, le LR, s'est fait complètement siphonner son électorat populaire, conservateur, réactionnaire est allé vers le RN, son électorat business, cadre, catégorie supérieure, a filé vers Macron. Se sont fait baiser. Donc, est-ce qu'il existe, parce que j'ai entendu Xavier Bertrand dire que il fallait recréer la droite française, j'ai entendu dire Édouard Philippe aussi, qui a dit ça hier soir, qui avait un travail pour redonner naissance à une droite et à un centre français. Est-ce qu'ils vont y arriver? Bonne question. Abonnez-vous à ma chaîne. On va examiner ça dans les 10-20 prochaines années parce qu'il y a du travail à faire pour redonner naissance à cette droite-là, quoi. Même destin que le PS avec le sandwich Macron-LFI. Non, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, les socialistes, ils ont un espace politique. Et ils l'ont démontré dans les élections législatives et ils l'ont démontré dans les élections européennes. C'est à la présidentielle que les socialistes, ils n'y arrivent pas. Parce que la présidentielle est très incarnée, par définition, c'est un scrutin majoritaire uninominal. Et là, Mélenchon s'en sort très bien, notamment dans les catégories populaires et chez les abstentionnistes. Donc, le PS, je vous rappelle qu'ils sont sortis renforcés des élections européennes. Il y a eu un rééquilibrage entre la NUPES et le nouveau Front populaire en termes de nombre de circonscriptions. Les socialistes ont écopé de davantage de circonscriptions et les insoumis en ont eu moins. Donc les rapports de force à gauche ne sont pas les mêmes que ceux à droite. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le PS, comme les Républicains, est très bien implanté localement. Le Parti socialiste a un vrai groupe au Sénat, a beaucoup de monde, a beaucoup de mairies, régions, départements. LFI, Wallou, hein. LFI, ils sont très mauvais dans les élections intermédiaires. Reconquête et Zemmour, c'est définitivement mort. Franchement, ouais. Reconquête, c'est un parti créé autour d'un homme. Éric Zemmour, fort de sa notoriété issue de la télévision pendant 20 ans, a créé un parti pour porter sa candidature à l'élection présidentielle. Sauf qu'il lui est arrivé deux trucs à la présidentielle, c'est que 1, il a fait que 7% des voix, et 2, il s'est fait largement dépasser par Marine Le Pen, montrant que, bah, en fait, les gens d'extrême droite, ils votent RN, ils votent pas Reconquête. Ensuite, aux élections législatives, ça a été la débandade absolue, Reconquête a eu zéro député, mais vraiment zéro. Ils sont plantés. Même Éric Zemmour a pas réussi à se faire élire à Saint-Tropez. Donc, pas ouf. Par contre, ils ont 5 députés européens. Alors, ils ont 5 députés européens, mais visiblement, les députés européens, ils sont emmenés par Marion Maréchal, et Marion Maréchal, elle a quitté Reconquête pour justement rejoindre le RN. C'est horrible ce qui s'est passé pour Zemmour. Le mec se casse le cul à créer un parti, à nommer Marion Maréchal tête de liste pour aller se battre aux européennes contre le RN. Elle arrive, elle est élue, ils ont 5 députés, ce qui est pas mal, ils sauvent l'honneur, et elle se casse pour rejoindre le RN. C'est moche. Et apparemment, elle a vidé les caisses du parti aussi, ouais, j'ai vu ça. Bon, bah. Elle rejoint pas le RN. Non, elle rejoint pas formellement le RN. Mais elle a dit dans son discours du soir de l'élection européenne que la force centrale à droite, c'était désormais le RN et qu'il fallait discuter avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Elle est en train de préparer son retour. Elle est complètement en train de préparer son retour. Et le lendemain, Éric Zemmour l'a traité de traîtresse à la radio. C'est bon, enfin, c'est terminé entre le torchon à brûler. Elle va là où le vent la porte. Oui, c'est exactement ça. Je pense que Marion Maréchal, je pense qu'elle s'est plantée, hein. Quand elle a quitté le RN avec tous ses potes, parce qu'elle est partie avec les cadres du parti, hein, elle est partie avec des gens qui ont un savoir-faire politique, etc. S'est barrée avec tous ses copains, en leur disant Marine Le Pen est cramée, l'avenir c'est Éric Zemmour. Je vous rappelle qu'au moment où elle prend cette décision, Marion Maréchal, Éric Zemmour, il est donné dans certains sondages à 20% à la présidentielle. 20%. On est à un moment où Bolloré fait marcher la machine à fond. Le nouveau champion, c'est Zemmour. Marine Le Pen, elle est cramée, c'est terminé, elle est nulle. On se casse, on va rejoindre la nouvelle fusée qui s'appelle Zemmour, qui va tout cartonner, qui sera au second tour, machin. Finalement, la campagne ne se passe pas du tout comme prévu. C'est la débandade, il fait 7%, ils ont zéro député. Et là, Marion Maréchal et les quatre du parti se sont regardés en se disant « Merde, est-ce qu'on n'a pas un peu merdé ?» On a quitté le parti qui, en fait, est en train de gagner à l'extrême droite pour rejoindre un autre attelage qui, visiblement, marche pas. Ah ouf. Zemmour a fait un travail de dédiabolisation du RN. Ah, Éric Zemmour a participé plus ou moins à corps défendant au succès du RN. Complètement. En se plaçant à la droite du RN, en étant encore plus radical que le RN, en traitant Marine Le Pen de femme de gauche, etc., Éric Zemmour, il a envoyé des signaux à tous les électeurs qui n'avaient pas encore rejoint le Rassemblement National de se dire « Oh, finalement, Marine Le Pen, ça va, il y a pire. » Ah non, vraiment, Zemmour, le dindon de la farce, mais jusqu'au bout. Hein. Il aura nourri le RN et il aura précipité sa propre chute. Super le génie de la politique qui nous vend son savoir-faire depuis 20 ans à la télé. C'était pas un peu le plan de base ? Non, c'était pas le plan de base ! Ah non, 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 non ! C'était pas du tout le plan de base. Zemmour voulait vraiment remplacer Le Pen, hein ? Zemmour voulait vraiment remplacer Le Pen. Il est sincère, Zemmour, quand il critique Le Pen. Quand il dit qu'elle est naze, etc., machin... Non, non, il y croit vraiment. Hein. Pour Bolloré, pas de différence. Non, pour Bolloré, pas de différence. Pour Bolloré, peu importe. La multiplication des chapelles à l'extrême droite, ça lui convient. Hein. D'autant que vous avez vu que Vincent Bolloré et son empire médiatique sont à fond dans l'Union des droites. Ils soutiennent à fond Éric Ciotti, l'Union des droites, etc. Donc lui, il s'en fout. On peut multiplier les chapelles à droite et à l'extrême droite, ce qui compte à la fin, c'est qu'on soit tous pour l'union et que tout le monde roule derrière. Peut-être même que Bolloré, il aurait bien aimé que Zemmour remplace vraiment Le Pen. Peut-être. Bref, Bolloré soutient la droite, mais pourquoi ? Ah bah Vincent Bolloré n'a jamais caché ses idées conservatrices, sa religion catholique. Il a toujours été assez clair. Hein. C'est pas tant le pognon, non. C'est pas tant le pognon. Vincent Bolloré ne gagne pas énormément d'argent avec son empire médiatique. Hein. Il a perdu de l'audience, il a perdu des parts, etc. C'est pas toujours un bon calcul économique. Par contre, c'est un vrai militant, Vincent Bolloré. Bolloré mène sa guerre civilisationnelle, il l'a dit lui-même. Oui, il l'a déclaré. Mais non, Vincent Bolloré, il est... Il est sincère hein, dans son combat. Il mène un combat avec son argent, avec son empire médiatique. Mais c'est pas tant le pognon. Hein. Demeurant, s'il voulait des avantages fiscaux, il avait qu'à soutenir Macron. Nicolas Sarkozy a organisé un déjeuner entre Macron et Bolloré en 2018, je crois. Pour essayer de les réconcilier. Ça n'a pas marché. Ils se détestent. Ils sont pas du tout pareils, ils ont pas fait du même bois. Ils s'entendent pas bien du tout. On en pense quoi des partis qui se retirent au deuxième tour? Eh bah, ben, ils font le choix de se désister. C'est le principe des élections législatives, hein, le désistement au second tour. Pour faire barrage. C'est le retour des lives ici, j'avais pas vu. Salut Marie! Ouais, bah écoute, je suis de retour depuis que Macron a dissous, hein. Un peu forcé par les événements, mais très content d'être là. Et content que tu sois là. C'est honteux et antidémocratique le désistement. Non, pas du tout. Ça l'a jamais été. C'est le principe d'une élection que d'être libre d'y participer ou pas. Ce serait antidémocratique de forcer quelqu'un à se présenter à une élection à laquelle il ne veut pas être candidat. De la même manière que c'est parfaitement démocratique pour des partis de faire des accords électoraux. Des coordinations électorales. Ça a toujours existé. Non mais je comprends l'argument antidémocratique parce que ça offre moins de choix aux électeurs dans leur bureau de vote. Est-ce que ça a été discuté sérieusement le permis de voter? Non, parce que c'est de la merde. Ça consiste à exclure les pauvres du droit de vote. C'est contraire à tout ce que les démocrates essayent de faire depuis 250 ans. Pourquoi les pauvres? Bah d'après toi, qu'est-ce qui va les réussir les examens pour avoir le droit de vote? Si on met en place des examens pour avoir le droit de vote? Et l'obligation de vote aux législatives quand on est président? Hein, quoi? Non, est-ce qu'on a le droit de voter aux législatives quand on est président? Oui, bien sûr, Emmanuel Macron est un électeur comme les autres, il vote comme les autres. L'obligation de vote, comme en Belgique, tu en penses quoi? Moi, je suis opposé au vote obligatoire, autrement appelé interdiction de s'abstenir. Je suis opposé à cette idée, on a parfaitement le droit d'être en désaccord avec moi, mais c'est la même raison d'ailleurs que le permis de voter, hein, c'est une machine à faire chier les pauvres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les pauvres qui s'abstiennent et les jeunes. Mettre en place un vote obligatoire, c'est coller des prunes ou coller des tracasseries administratives sur les pauvres. Comme s'ils avaient besoin de ça. Vous entendez l'alarme là dans le quartier, on est content, hein? Gros banger. Quand il reste le choix entre le RN et Macron, ça fait chier alors que le FP était au deuxième tour. Ben oui, mais si le FP était au deuxième tour et qu'il se maintenait, c'était le RN qui gagnait. Donc le FP a fait le choix de se désister de manière à soutenir un candidat mieux placé que lui pour battre le RN. C'est ce qu'on appelle le désistement républicain. Est-ce qu'il y a déjà eu une évocation du droit de vote pour les personnes très âgées qui n'ont plus toute leur tête au même titre que les moins de 18 ans et ne peuvent pas voter? Non, c'est pareil, moi je suis contre. En fait, je suis contre toute mesure qui consiste à retirer des gens du droit de vote. Y compris les vieux. Les vieux ont le droit de voter. Ils ont le droit d'aller voter. Et c'est un peu validiste en plus, ouais, je suis d'accord. Non, non, mais vraiment, hein, toutes les mesures qui consistent à essayer de limiter le droit de vote de manière à ce que les gens qui votent soient uniquement les gens intelligents, soient uniquement les gens informés, soient uniquement les, je sais pas, les travailleurs, les cadres, etc. Moi, je suis radicalement contre. Droit de vote à 16 ans? Moi, je suis pour le droit de vote à 16 ans. Je suis pour que l'inscription sur les listes électorales soit ouverte à partir de l'âge de 15 ans. À partir du brevet des collèges, en gros, à partir de l'entrée au lycée. T'as pas le droit de voter en prison? Si, t'as le droit de voter en prison. Si tu n'as pas été déchu de tes droits civiques par une décision de justice, tu as le droit de vote, y compris en prison. Et l'administration pénitentiaire, malheureusement, n'organise pas très bien les opérations de vote. Donc il y a beaucoup de prisonniers qui sont tenus éloignés du vote, simplement parce que l'administration pénitentiaire fait pas son boulot, ou n'a pas les moyens de le faire. Est-ce qu'un détenu peut faire une procuration dans ce cas? Oui, il y a des détenus qui font procuration. Mais pour ça, il faut avoir de la famille, proche, etc. Enfin, oui, c'est pas facile, mais oui. Il y a eu un but au foot, félicitations. Tu penses qu'un jour il y aura un député lutte ouvrière? Ben, ce sera la première fois de l'histoire de lutte ouvrière qu'ils remporteront une élection? Tant mieux pour eux. Allez, le foot. Bravo, le foot. Si le RN et le NFP ont le même nombre de sièges, qui est le Premier ministre? C'est une excellente question. Oh, ça va être drôle, on va suivre ça. Abonnez-vous à ma chaîne, hein. Moi, je vous le dis, hein, il va se passer des dingueries. Élu à pile ou face. Et ça va se régler comme ça. Est-ce qu'il y a un nombre pair de députés? Non, il y a 577 députés. Je propose un BO3 sur LOL. Je l'avais déjà fait, hein. Pour ceux qui s'en souviennent pas, sur ma chaîne Twitch, j'avais organisé un BO3 sur LOL entre la France Insoumise et la République En Marche. Avec deux députés. Et c'était la République En Marche qui avait gagné. LFI. Ils avaient chambré sur Twitter avant le match, puis ils se sont fait plier. En vrai, le match était cool. On a bien rigolé. Est-ce qu'il y a une date limite pour se désister? Oui, c'est le mardi à 18h. Demain 18h. Apparemment, Guiro est diamant. Bah, il était dans le match, hein, Guiro. Guiro, il jouait, hein. Il jouait jungle, je me souviens. Bah, il a perdu face à la République En Marche. Il reste combien de triangulaires du coup? Je sais pas, on verra demain. On verra demain, il y en avait 306 des triangulaires possibles. Et demain à 18h, on aura la réponse définitive sur combien de triangulaires il reste. Ceux qui se désisteront pas, ils vont quand même être un peu grondés ou pas. Alors ça dépend. Ça dépend. Il y a deux types de maintien et de triangulaire. Il y a une triangulaire où tu mets en danger la circonscription et en te maintenant, tu fais peser le risque que le RN remporte la circonscription, parce que tu divises les voix en face. et il y a d'autres triangulaires dans lesquels il y a très peu de chances que le RN gagne. Genre le RN est arrivé troisième, par exemple. Le RN est arrivé troisième avec genre 20% des voix, et les deux autres, ils sont devant avec 40% des voix. Bon, bah là, c'est pas très grave s'il y a un maintien des deux candidats anti-RN au second tour, parce que ce sera forcément l'un des deux qui va être élu, c'est pas le RN qui va magiquement passer de 20% à 50%. Donc, faut pas insulter tout le monde tout de suite sur Twitter. Alors si vous êtes de gauche, il faut que vous insultiez des gens de gauche, c'est le principe de la gauche Twitter. Mais sinon, n'insultez pas tout de suite les gens qui se maintiennent en triangulaire dans la circonscription. Regardez un petit peu le score dans la circonscription. Parfois, c'est pas très grave qu'ils se maintiennent. Donc voilà. Regardez un petit peu avant. Comment on peut voir les résultats de notre circonscription? Va sur le site de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur. Hein. Regarde. Hop. Élection législative. Élection législative. Vérifier mon inscription, faire une procuration, connaître les dates, savoir ce dont j'ai besoin, machin, accéder aux informations. Non, c'est pas le bon site. C'est le site d'après. C'est le site resultat-election.intérieur.gouv.fr. C'est ça le bon site internet. Et là, tu cliques sur la carte là où tu habites. Hop. Tu sélectionnes le nom de ta commune. Mais il n'y a pas une carte sinon? Ça, c'est France entière, accueil législative. Putain, l'alarme! La gueule! Non, c'est forcément comme ça. Bon, bah voilà, bah tu cliques sur le nom de ta commune. Et tu as les résultats. Sinon, le journal Le Monde a aussi fait un truc. Attends, où je le retrouve? Il est où le site du Monde avec les résultats près de chez soi? Merde, ils l'ont déjà viré. Et enfin, la France veut savoir. Suivez la campagne d'entre-deux-tours. Non, je veux pas suivre la campagne d'entre-deux-tours, moi je veux savoir. Bon. Ah, il y a Jésus-Berry qui l'a mis dans le chat. Merci Jésus-Berry. Résultat d'élection, carte des résultats. Boum! T'as la carte de France et là tu peux zoomer dans ta circo. Parfois il faut beaucoup zoomer. Hein. Et là tu check. Et là t'as les résultats à droite. Rachel Keke qui va très probablement être réélue face à Vincent Jeanbrun. Clémence Guettet a été élue dès le premier tour. Isabelle Santiago a été élue dès le premier tour. Bon, en même temps c'est le Val-de-Marne. C'est quoi Horizon comme groupe? C'est quoi Or comme groupe? H-O-R, c'est Horizon. Quel sera l'invité de Backseat jeudi prochain? On est en train d'y travailler. J'ai pas encore la réponse définitive. Comme d'habitude, je ne vous donne pas les prétendants. Ah oui, il y a aussi un truc que vous pouvez faire, évidemment, tant que vous y êtes. Hein, vous allez sur la page KissKissBankBank de Backseat, vous scrollez, et là, vous faites un don. Vous choisissez votre abonnement. Prenez l'abonnement à 10€, par exemple. C'est dommage, vous ne faites pas partie du club Backseat, mais bon. Et vous payez 10€ par mois, et comme ça, ça rend possible l'émission, et vous, ça vous apporte les bonus suivants. Vous avez la vidéo bonus en avance, les vidéos bonus, les lives et débriefs privés, l'accès à la VOD 24 heures en avance, votre nom au remerciement de l'émission. confirmez mon abonnement. Et comme ça, vous soutenez une émission cool sur Twitch. Les émissions ont lieu à Paris. Oui, les émissions ont lieu à Paris dans le 20e arrondissement. Sauf émissions exceptionnelles en partenariat qu'on fait ailleurs. Genre la fête de l'UMA, genre Strasbourg. Je suis déjà membre du club Backseat, mais je voulais faire un don ponctuel, je sais, j'ai pas trouvé. Regarde, c'est là. Faut scroller en bas. Et c'est ici, le don unique. Choisissez le don unique. Tu rentres ton montant. Et tu cliques sur « Je donne ». Voilà. C'est un peu caché. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un collègue m'a spoté au JDR Backseat. Participer à Backseat vous rend célèbre. Au pire, prends deux abonnements. Oui, tu peux. On peut donner 49,30€, bien sûr. C'est toujours apprécié. La carte met combien de temps à arriver? Ça met un peu de temps parce qu'il faut, il faut le temps de la fabriquer, la carte, à ton nom. Et moi, il faut que je signe le courrier qui va avec. Là, on va faire une prochaine session de signature, je crois, bientôt. Une guerre interne au sein de l'extrême droite est-elle possible? On en parlait un petit peu tout à l'heure en parlant d'Éric Zemmour. Non, aujourd'hui, l'extrême droite française est bien rassemblée dans le Rassemblement national. Éric Zemmour a essayé de contester à Marine Le Pen le leadership à l'extrême droite. Il n'y est pas parvenu. Après, est-ce que ça peut arriver plus tard? Ça, c'est possible parce que c'est déjà arrivé. Vous n'avez pas connu ça, vous, mais à la fin des années 1990, le numéro 2 du Front National a claqué la porte du parti, et il est parti, il s'appelait Bruno Maigret, le mec, il est parti avec plein de cadres du parti pour créer un parti concurrent qui s'appelait le MNR, le Mouvement National pour la République, je crois un truc comme ça. Et Bruno Maigret a fait de la politique en France pendant une dizaine d'années. Avant d'émigrer aux États-Unis. Il a quitté la vie politique. Mais il n'a pas réussi à contester à Jean-Marie Le Pen le leadership à l'extrême droite, mais il a quand même fait mal au FN. Hein. Il s'est barré avec un paquet de cadres du parti. Un extrême droite qui émigre, eh oui, ça ne manque pas d'humour. Il est devenu quoi ce parti? Je crois qu'il est mort, hein, le MNR. J'en ai pas entendu parler depuis tellement longtemps. Peut-être que la cellule existe toujours. Il y avait Gollnisch aussi, oui c'est vrai, tu as raison. Il y avait Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch qui avait voulu empêcher Marine Le Pen de prendre le Front National. Bruno Gollnisch qui, de mémoire, avait fait 20 ou 30% au Congrès contre Marine Le Pen. Donc il n'avait pas réussi à empêcher Marine Le Pen de rejoindre, de prendre la tête du Front National. Jean-Marie Le Pen est toujours vivant. Jean-Marie Le Pen est toujours vivant, il est très âgé. Pas loin de la fin, mais il est toujours vivant. Ah, il y avait Philippot aussi, vous avez raison. Ouais, Philippot qui s'était cassé en 2017 en accusant Marine Le Pen de ne plus soutenir la sortie de l'euro. Parce que Philippot veut absolument en sortir de l'euro. Pour lui, c'est prioritaire surtout. Et donc, quand elle avait dit en 2017 dans le débat d'entre-deux-tours qu'elle ne proposait plus de sortir de l'euro. Il avait claqué la porte du parti. Lui aussi s'était barré avec des cadres. Et ensuite, Philippot, il a essayé d'exister pendant le mouvement anti-vax. Il est devenu un leader anti-vax pendant le Covid. Complètement conspi, complotiste, machin, sur des pages Facebook. Il faisait des vidéos tout le temps. Et il a fini par disparaître, hein, lui aussi. Ça nous manque pas. Hein. C'est comme l'autre taré là, qui est devenu un leader gilet jaune. Comment il s'appelle lui? Non, pas Lalanne. Un mec issu de la gauche et qui a viré complètement conspi, fou allié. Non, c'est pas Lalanne, c'est pas Bigard, c'est pas Rodriguez, c'est pas Philippot. C'est pas Onfray, c'est pas un avocat, non. C'est un mec qui était avec Attal à l'école. Juan Branco. Juan Branco. Juan Branco qui a complètement pété un plomb au moment des Gilets jaunes, qui s'est fait l'avocat du peuple, machin. Et l'ange noir de Saint-Germain. L'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Et alors lui, il a complètement viré. Déjà dans son délire complotiste chelou, il écrivait des textes homophobes. Enfin, mais c'était lunaire. Et contre Attal. Et il a fini par virer parce qu'il a violé une meuf. Voilà. Il a drogué une meuf pour la violer. Et il a essayé de s'en expliquer sur le plateau de TPMP. Et puis ciao bye. Hein. Il était candidat à LFI en 2017, ouais. Ouais. Et depuis, il continue à vivoter sur Twitter. Je crois qu'il continue à. Tu te trompes? Ah non, je me trompe pas, non. Ah non, c'était bien lui qui était venu sur le plateau de TPMP expliquer que il avait filé des médocs à la meuf et que c'est pas grave parce que c'est juste des médicaments qui endorment. Mec. Mec. Non, mais c'était lunaire. Personne l'a repris sur le plateau. Personne l'a repris sur le plateau. Des copines féministes qui étaient en train de tabasser leur écran. Non, mais c'est pas possible. C'est vrai, il était avocat. Non, vous avez raison, il était avocat. Oui, avocat, Juan Branco. Il a été avocat de Julian Assange. Tu confonds, mais je confonds avec qui? Non, je parle bien de Juan Branco, hein. Bon, bref, il a disparu. Est toujours avocat. Ok, d'accord, il est toujours avocat. D'accord. Et Asselineau dans tout ça? Asselineau, ça commence à dater, hein. Faut qu'il se renouvelle là. Enfin, je veux dire, il continue à. En fait, il continue avec la même diatribe qu'il y a 10 ans. En t'expliquant que, ouais, il y a un complot contre moi pour m'empêcher d'exister politiquement, pour m'empêcher d'être candidat. C'est pour ça que j'ai pas mes 500 signatures, c'est parce qu'il y a un complot. Enfin, c'est toujours la même rengaine. Et il dit qu'il fait plein de vues sur ses vidéos YouTube, ce qui est vrai d'ailleurs. Et il dit que c'est la preuve qu'il est soutenu par le peuple. J'ai envie de te dire, Squeezie président à ce jeu-là. Hein. C'est quoi la différence entre Horizon, Renaissance et La République en Marche? La République en Marche n'existe plus, ça s'appelle Renaissance désormais, c'est le parti d'Emmanuel Macron. Horizon, c'est un parti associé à ce parti qui est lui dirigé par Édouard Philippe. Voilà. Vous connaissez l'UPR, c'est le petit parti qui grandit à l'ombre des médias. Putain, mais ça, cette blague, elle était drôle en 2017, quoi. On est en 2024. C'est quoi l'IOT? L'IOT, c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. C'est un groupe de députés qui est un groupe d'opportunités. Donc, c'est pas vraiment un groupe lié à un parti politique ou à une idéologie précise. C'est un groupe de députés indépendants qui ont préféré se mettre ensemble plutôt que de rester non inscrits. Question technique ou pas, quel est l'intérêt de dissoudre un parti pour en remonter un? En général, c'est pour acter une évolution ou un changement de stratégie ou de ligne politique. Parfois, c'est pour une fusion de plusieurs partis ensemble. C'est pour ça que les partis, parfois changent de nom. C'est quoi le MoDem? C'est le parti de François Bayrou, c'est un parti de centre indépendant qui soutient Emmanuel Macron. Le MoDem s'écroule, ah ouais? Dans les élections, là, j'ai pas vu. Alors, en même temps, c'est un peu la débandade pour la majorité, hein. C'est quoi l'UDF? Ça n'existe plus l'UDF. C'était un parti de centre-droit qui était le parti de Valéry Giscard d'Estaing. C'était un parti de droite non gaulliste. Par quoi est défini le centre? Le centre en France est traditionnellement défini par sa position centrale dans l'échiquier politique déjà. Sa modération. Le centre, on peut dire qu'il est traversé par des idéaux démocrates chrétiens, européens, libéral, plus ou moins conservateur selon les partis. Vous avez vu les scores du premier tour, là, des législatives chez les jeunes? Ça fait du bien au cœur. Les jeunes ont voté à 45% pour le nouveau Front Populaire. C'est les 18-24 ans, en l'occurrence. 45% pour le nouveau Front Populaire. 33% pour le Rassemblement National. Et 10% pour Macron. Et l'alarme qui revient, évidemment. De communistes? Ouais, au moins, ouais. De bolcheviques, même, tu peux le dire, hein. Bon, hé, les copains, il est 20h. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter là. On va se dire qu'on a bien rigolé, que c'était intéressant. Je ne sais pas si je fais un live demain. Ah oui, vous pouvez applaudir par la fenêtre aussi. Je sais pas si on fait un live demain. Peut-être, peut-être pas. Mais je vais arrêter là le live. Et de toutes les façons, on se retrouve jeudi pour Backseat à 19h. Vous mettez dans votre agenda, hein, jeudi 19h, Backseat, sur ma chaîne Twitch. Émission exceptionnelle. Ça va être trop bien. Spécial entre deux tours, tout ça, tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, les copains. C'était cool. Merci pour vos abonnements. Ça me soutient et ça me permet de bouffer. D'ailleurs, je vais aller bouffer. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, bye.